grand dialogue
Sigikafoba
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 15 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue d'aujourd'hui qui réfléchit sur la question « Le Mali sera-t-il un État fédéral ?» Trois axes pour cette émission. Le fédéralisme est-il envisageable au Mali ? Faut-il un référendum pour modifier le statut des huit régions du pays ? L'unité nationale est-elle encore possible au Mali ? Pour débattre de ces questions, Amadou Goïta du Parti Socialiste, parti de l'opposition, Amadou Aya du Parti Yelema, de la majorité présidentielle, Moussa Ag Assari du MNLA, Assibi Ag Akado du Conseil national de la communauté Bella. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diara est à la mise en onde. Bonjour à vous, messieurs, et merci d'être des nôtres. Après plusieurs reports, les négociations directes entre le gouvernement malien et les groupes armés à Alger se sont enfin engagées ce matin. Le statut politique et institutionnel est bien sûr au centre des discussions. Le fédéralisme comme statut politique de l'Azawad revient une fois de plus dans les débats à Alger, mais pour les observateurs, il s'agit d'une surenchère de ces groupes. En l'état actuel des textes fondamentaux du Mali, le fédéralisme est impossible et sa mise en œuvre impliquerait un long processus dans la révision de la Constitution. Alors, Moussa Ag Assari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct dans ce débat et vous représentez le MNLA. Est-ce que vous êtes d'accord avec les experts qui disent que ce que vous réclamez, le fédéralisme, est un moyen de surenchérir les, par rapport aux négociations ?
Tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs et à ceux qui sont avec vous sur le plateau. Je suis à Alger avec des experts, avec la médiation, avec les différentes parties dans la négociation. Et je pense sincèrement que ce n'est pas une surenchère. Il faut se rappeler que le MNLA en 2012 avait déjà proclamé l'indépendance de l'État de l'Azawad, alors qu'il n'y avait plus sur le territoire de l'Azawad aucun militaire et aucun administrateur sur le territoire. Donc aujourd'hui, avec le processus de négociation, nous réclamons, nous posons sur la table avec des arguments à l'appui le statut juridique et politique de l'Azawad en tant que fédération de deux entités, donc l'entité de l'Azawad ou Nord-Mali. Enfin, l'autre entité, c'est le Sud. Donc, il faut savoir que c'est un cheminement qui a commencé depuis très longtemps, depuis déjà le pacte national qui avait conféré à l'Azawad le statut particulier qui n'avait pas été respecté et qui avait abouti à la décentralisation à l'époque aussi. Ça avait commencé par la décentralisation. Donc les experts, ou en tout cas ceux dont vous parlez, ne sont pas de même avis que ceux qui sont avec nous ici et ceux aussi que nous rencontrons à travers le monde et qui pensent qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution qui permette à chaque partie de pouvoir vivre librement et dignement sur le territoire de ses ancêtres.
Donc vous pensez que cette formule de fédéralisme est possible ?
Nous pensons que si nous voulons construire ensemble quelque chose qui soit équitable, qui soit durable, il faut que chacun puisse trouver la forme qui lui permette l'autogestion de chez lui. Donc les régions de l'Azawad et le cercle de Douanza pourront, en tant qu'entité, gérer leur territoire et avoir aussi des compétences partagées avec l'État central. Et cela est réalisable.
D'accord.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec les représentants du gouvernement du Mali.
Sur la question Alger. Alors, Amadou Goïta du Parti Socialiste, parti de l'opposition, est-ce que cet État fédéral voulu par les groupes armés est possible aujourd'hui, à l'état actuel des choses ?
Je vous remercie. Je remercie les auditeurs et les auditrices de la radio Tamani. Vous avez touché du bois. D'abord, la constitution malienne à son article 25, dit « Le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique et laïque. La souveraineté n'appartient qu'au peuple malien. » Aujourd'hui, vouloir rentrer dans ce chemin de fédéralisme est une indépendance qui ne dit pas son nom. Moi, j'invite surtout ces groupes armés qui ont signé les accords de Ouaga, accords dans lesquels ils se reconnaissent dans un Mali un et indivisible, où ils reconnaissent la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali. Ils ont signé la feuille de route récemment en Algérie, feuille de route qui les engage et qui reprend encore ses préalables. Je pense qu'aujourd'hui, aller à des velléités de scission ou d'indépendantisme, et surtout, ils parlent au nom d'une population qu'ils ne se reconnaissent pas en eux. La solution, moi je l'ai dit le toujours, je pense qu'aujourd'hui ces négociations sont en train aujourd'hui de prendre toute la République en otage. Tantôt il y a des blocages, tantôt il y a des vérités d'indépendantisme. Je pense que ce qui n'est pas encore mieux que le pouvoir central essaye de donner la parole au peuple malien, surtout aux populations du Nord, pour qu'elles s'expriment. Puisque ceux qui ont pris les armes, Ak vient de rappeler qu'ils avaient proclamé l'indépendance en avril 2012, ils l'avaient fait à l'époque avec des djihadistes. Ils se sont vite départis de ceci. Et je pense qu'aujourd'hui, faire revenir les débats autour de cela est une remise en cause essentielle même de leur lutte. Puisque nous avons estimé que nous négocions avec des gens qui ont des revendications politiques, mais pas ceux qui ont des prétentions djihadistes. Donc je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est cette décentralisation poussée à laquelle le gouvernement s'attelle, surtout à travers la régionalisation.
Alors, Amadou Aya, vous êtes du parti de la majorité présidentielle, un des partis de la majorité présidentielle, notamment celui du Premier ministre Moussa Mara, le parti Yelema. Pourquoi parler de fédéralisme alors que les partis se sont entendus sur l'abandon total de toute idée d'autonomie il y a seulement quelques mois?
Merci. Je m'associe également à M. Koïta pour saluer et remercier également la radio Tamani pour nous donner l'opportunité effectivement de nous prononcer pour ce que vous venez d'appeler du fédéralisme qui surgit, n'est-ce pas, subitement. Nous estimons, comme l'a dit mon précédenteur, que je m'associe exactement à tous ces propos pour dire que les groupes armés doivent se montrer responsables. Responsables par rapport à leurs engagements. Également responsables par rapport à toute la communauté internationale qui, depuis ces événements, nous assiste. Mais aussi à travers toutes les résolutions qui ont reconnu le caractère indivisible, le caractère laïque de la République, qui a reconnu la Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, nous parler subitement du fédéralisme qui n'apparaît nulle part dans les documents dont il parle, qu'il parle du pacte national, ne parle pas nulle part du fédéralisme. Quand il parle du cercle de Douanza, je pense que M. Koïta l'a si bien dit, il parle au nom de quel peuple? Si c'est le peuple du Mali, c'est le peuple du Mali aujourd'hui qui doit être interrogé. Je ne parle pas du peuple des régions du Nord, parce qu'avant eux-mêmes, l'histoire nous apprend qu'il y a eu d'autres peuples qui ont vécu sur ces terroirs. Donc je crois que nous parler aujourd'hui du fédéralisme, je pense que c'est une manière de prendre en otage ces négociations. Et cela est inacceptable.
D'accord. Alors, Assibi Akado, vous êtes du Conseil national de la communauté Bella au Mali. Est-ce que vous vous reconnaissez en ce que vient de dire Moussa Ag Assarid? Que pensez-vous justement de cette question de fédéralisme?
Eh bien, merci de m'avoir donné la parole. Je joins évidemment ma parole à celle de mes prédécesseurs pour dire que à ce stade des négociations, il nous paraît extrêmement dangereux d'évoquer un certain nombre de concepts qui n'ont jamais été employés avant aujourd'hui. On nous a parlé d'autonomie, on nous a parlé de statut particulier, et tout d'un coup, on sort un terme, n'est-ce pas, qui pour lequel aucune disposition n'est prise. Est-ce que ceux qui parlent de fédéralisme savent ce que ça veut dire réellement? Ils connaissent par quel processus les gens aboutissent à un fédéralisme. Quand ils parlent des peuples de l'Azawad, je veux lui rappeler simplement que la frontière qu'il a dessinée, les peuples qui se trouvent dans cette frontière-là ne reconnaissent aucune légitimité à ceux-là qui ont pris les armes. À commencer par la majorité des communautés tamachèques et touareg, la majorité des communautés arabes, la majorité des communautés Bella et Sonrey, et Peul, et Bambara et Bozo qui habitent ces régions-là, ne les ont pas mandatés. Ils le savent. Mais si vous êtes la main armée, n'est-ce pas, de puissances extérieures, si vous portez les agendas de l'extérieur, ça se comprend. Sinon, les Touaregs ne se sont jamais prononcés pour le fédéralisme. C'est alors, pour dire que, franchement, nous sommes surpris de ce langage-là. Et ça ne nous étonne pas. Sinon, ce que la décentralisation n'a pas pu régler aux communautés, en tout cas minoritaires du Nord, ce n'est pas le fédéralisme qui va le leur arranger.
Alors, Moussa Ag Assarid, vous intervenez depuis Alger. Vous représentez le MNLA à ce débat. À partir du moment où vous reconnaissez l'intégrité territoriale du Mali, son caractère laïque et avec la présence de l'administration, des autorités maliennes dans les régions de Gao et de Tombouctou, y compris Douanza, est-ce que ce n'est pas une entorse que de vouloir le fédéralisme aujourd'hui à l'état actuel des choses, sachant que voilà, tout cela est remis en cause par l'accord de Ouagadougou.
J'ai écouté attentivement ceux avec lesquels je suis en train de débattre actuellement. Juste, j'aimerais dire que l'accord de Ouagadougou et la feuille de route sont des documents qui font partie du processus de négociation et qui ouvre la voie, qui balise le terrain à un face-à-face entre les parties en belligérance.
Ces documents ont-ils une valeur à vos yeux?
Ils ont une valeur jusqu'à ce que les deux parties se retrouvent autour de la table de négociation. Et après, tout est négociable dans le cadre de l'intégrité territoriale. Et le fédéralisme ne sort pas de l'intégrité territoriale. Donc, moi, j'aimerais dire à celui qui disait « Est-ce que nous connaissons le terme de fédération ?» Je le respecte beaucoup. Il ne sait ni mon niveau d'études, ni d'ailleurs les experts avec lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, il faut quand même admettre aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, que nous faisions une offre de paix. Les différents mouvements qui se retrouvent aujourd'hui dans la coordination des mouvements de l'Azawad ont fait une offre de paix à la partie malienne, à la partie du gouvernement du Mali. Et dans cette offre de paix, il y a la prise en compte de la spécificité culturelle, économique, historique, géographique de l'Azawad. Et quand on me parle du Mali un et indivisible, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas déjà une division de fait? Est-ce que depuis 2012, il n'y a pas déjà de fait une division? Et est-ce que nos parents avaient voté à l'époque, en 1960, l'indépendance du Mali? Non, l'indépendance du Mali a été offerte par le colonisateur aux dirigeants du Mali à l'époque.
Alors, Moussa...
Donc, il ne faut pas me parler de choses qui ne sont pas prévues dans le pacte national, dans la Constitution.
Alors,
la Constitution, n'importe quelle Constitution, je termine, n'est pas le Coran. La Constitution n'est pas figée.
Oui, mais vouloir aujourd'hui...
s'il vous plaît, vouloir aujourd'hui modifier cette constitution, vous imaginez bien que cela demande du temps et demander l'avis du peuple, ça va prendre également du temps. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Nous allons vous retrouver juste après quelques secondes de pause.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous sommes à la deuxième partie du Grand Dialogue. Vince, le nombre de stations radio partenaires qui retransmettent en soit en direct ou en différé les productions du Studio Tamani. L'émission d'aujourd'hui porte sur la question, le Mali sera-t-il un État fédéral? Cette deuxième partie est consacrée à ces deux questions. Le fédéralisme peut-il concerner uniquement les régions du Nord? Faut-il un référendum pour modifier le statut des régions? Pour en débattre, nous avons comme invité Amadou Goïta du Parti Socialiste, Amadou Aya du Parti Yelema, Moussa Ag Assarid du MNLA qui intervient depuis Alger, Assibi Ag Akado du Conseil national de la communauté Bella au Mali. Le fédéralisme peut-il concerner uniquement les régions du Nord? Faut-il un référendum pour modifier le statut de ces régions? Alors pour répondre à ces deux questions, un premier invité va tenter de répondre à ces deux questions. Amadou Goïta, vous avez la parole.
J'ai pas compris.
Le fédéralisme, peut-il concerner uniquement les régions du Nord ou faut-il un référendum pour modifier le statut des régions?
Non, je disais tantôt que aujourd'hui, les populations dans lesquelles M. Moussa Ag s'exprime ne se reconnaissent pas. D'ailleurs, il a parlé de la scission du Mali. Je voudrais lui dire qu'avant l'intervention de la France, et de la CDAO, le MNLA n'existait pas sur le terrain. Le MNLA avait complètement disparu. Il a fallu l'intervention de la France pour que le MNLA soit remis dans le jeu. L'essentiel pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas de diviser le Mali en deux. Parce que le fédéralisme dont il parle, c'est un fédéralisme de deux entités, de deux États. Le fédéralisme en soi se définit comme étant un mode d'organisation dans laquelle chaque parti dispose d'une large autonomie et délègue certains de ses pouvoirs au pouvoir central. La Constitution malienne n'a pas prévu cela. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils souhaitent s'autogérer, s'ils souhaitent gérer ces régions, toutes les régions du Mali d'ailleurs, selon les spécificités et les identités, la proposition faite par le gouvernement, qui est aujourd'hui le régionalisme, la régionalisation de façon générale, qui est une décentralisation renforcée. Si réellement c'est pour des objectifs, et surtout si c'est pour le développement des régions du Nord, je pense que cet engagement du gouvernement nous permettra d'aller à la paix. Mais malheureusement, je voudrais rappeler à Moussa Ag que les différentes résolutions qui ont été votées en faveur du Mali, que ce soit la 2075, la 2085, la 2100, la 2164, reconnaissent tous l'intégrité territoriale du Mali, l'unité du Mali, la laïcité du Mali. Si ils se reconnaissent dans ces résolutions, c'est ces résolutions qui font qu'il y a des experts aujourd'hui en Algérie pour accompagner ce pourparler. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre que le peuple malien ne peut pas accepter aujourd'hui ce que nous n'avons pas accepté le 22 septembre 1960. Nous ne pouvions l'accepter aujourd'hui.
Le jour de l'indépendance.
Le jour de l'indépendance. Je pense que nous devons tous œuvrer à ce que le Mali reste un et indivisible, travailler pour le développement du Mali. S'ils ont pris les armes, n'estimant que Kidal est une zone laissée pour compte, et même là, ça fait matière à discussion. Moi, j'ai été à Kidal, j'ai été dans toutes les régions du Mali. Je peux dire que autant Kidal est sous-développé, autant à Kay, dans certaines localités, avoir de l'eau potable constitue un problème, mais pourtant, ils n'ont pas pris les armes.
Est-ce que la gestion également durant ces 10 dernières années ne pose pas problème dans ces deux régions, Kidal et Kay?
Je pense que la solidarité nationale s'est fait ressentir partout pendant ces 10 dernières années. Je voudrais rappeler qu'il y a eu tellement de programmes en faveur des régions du Nord. Il y a d'abord l'ADN, l'Agence de développement du Nord. Il y a également le programme de développement des régions du Nord, qui ont englouti des milliards et des milliards. et l'a également assorti d'une certaine exigence.
Est-ce que cela a été investi sur le terrain?
La question qu'on se pose, ceux qui ont pris les armes aujourd'hui, moi je connais bien Moussa Agg, il a bénéficié d'une bourse de l'État malien pour aller en France. Ce que lui il a bénéficié, il y a beaucoup de jeunes maliens qui attendent cela.
Je pense dans le cadre du développement.
Dans le cadre du développement, moi je peux dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Mais je voudrais également dire que ceux qui géraient et qui continuent à gérer ce programme, comme l'ont souhaité d'ailleurs les ressortissants du Nord, que ce soit les ressortissants de ces différentes régions, qui soient les principaux acteurs. Je pense que de projets de développement financé, que d'hommes, sinon des hommes qui ont pris les armes conformément au pacte national, il fait référence au pacte national, je voudrais dire que le peuple malien a accepté. A accepté parce qu'en estimant que la paix n'a pas de prix, mais ça a un coût, a accepté que des milliers et des milliers de Touaregs, de Soreilles, pour la paix intègre la fonction publique, l'armée, sans faire de concours. Je pense que ça, c'est un effort de solidarité nationale. Il ne faut pas remettre tout ça en cause. Aujourd'hui, dire que pendant ces 10 dernières années, comme je l'ai dit, j'ai été à Kidal. Je sais qu'à Kidal, je ne dis pas qu'on vit mieux à Kidal qu'à Sky, mais je sais qu'il y a des efforts extraordinaires qui ont été faits par l'État malien pour que Kidal se développe. Aucun pays ne peut se développer avec les armes.
Alors, le Mali est-il prêt, Amadou Aya? Est-ce que le Mali est prêt à aller au référendum pour régler cette question si jamais cela passe à Alger du fédéralisme?
Mais ce fédéralisme ne peut pas prospérer. Et je crois que la question centrale, c'est de voir aujourd'hui comment nous allons pouvoir développer le Mali. Comme l'a dit M. Koueta, le Mali du Sud, le Mali du Nord, le Mali d'Est, le Mali du Centre. Il s'agit du Mali. Quand notre frère, M. Assarid, parle des spécificités culturelles, je crois que ces spécificités culturelles n'est pas propre au Nord. Mais c'est aussi, il y a des spécificités culturelles au Sud. Donc il s'agit aujourd'hui pour nous que le fédéralisme dont il prône, c'est quand il dit, je pense que c'est quand on sait ce que c'est que le fédéralisme, c'est que ça s'oppose à l'État unitaire, ce qui est contraire, n'est-ce pas, à tous les accords, et ce qui est contraire à toutes les résolutions, et à ce qui est contraire également à ce qu'ils ont signé, la reconnaissance de l'État unitaire. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de parler de référendum par rapport au fédéralisme du Nord. Je crois que les experts maliens qui sont là-bas n'ont pas mandat de discuter du fédéralisme. Ils ont un mandat bien précis par rapport à la feuille de route. Donc, aucun expert malien qui est aujourd'hui à Alger n'a le mandat de discuter du caractère, c'est-à-dire de l'indivisibilité de notre territoire national.
Alors, à quoi équivaut le fédéralisme version malienne voulu aujourd'hui par les groupes armés à Alger, à Sibi Agg Akado du Conseil national de la communauté Bella?
Bon, je veux simplement rappeler que le fédéralisme ne peut pas faire peur à des citoyens quand ils le veulent, n'est-ce pas? Quand les conditions, dans les conditions même de paix, les gens peuvent demander le fédéralisme. Mais un fédéralisme suscité par un positionnement de groupes rebelles qui pensent qu'ils ont déjà une frontière, ils ont les armes là-dedans, et que, comme notre petit frère vient de le rappeler, la scission est déjà là, et il ne reste qu'à officialiser le fédéralisme. J'ai dit non. Dans un État responsable, ne peut pas aller à un fédéralisme dans ces conditions-là. Et je veux dire par là tout simplement que, oui, au fédéralisme, s'il est le fruit d'un consensus national, si les Maliens dans leur ensemble pensent que vraiment vu, etc., allons à ça. Alors là, évidemment, il ne va pas se limiter aux seules régions du Nord. Et j'aimerais seulement rappeler à Moussa Agg Assarid que même si un fédéralisme est obtenu par la force, parce que apparemment c'est avec la force qu'on veut, n'est-ce pas, tordre le cou des Maliens, même si ce fédéralisme est obtenu par la force, je ne vois pas comment il va parvenir à homogénéiser, n'est-ce pas, les relations sociales, économiques, etc., etc., identitaires des populations du Nord qui sont loin de dire, de parler le même langage que lui.
Alors, Moussa Ag Assarid, vous intervenez depuis Alger. Vous êtes le représentant du MNLA à ce débat. Vous représentez également le MNLA en Europe. Vous êtes parmi les représentants du MNLA en Europe. Est-ce que ce qui se passe en Europe avec le problème écossais et en Espagne également, cela a une quelconque influence sur vos idées vis-à-vis du Mali?
Tout à fait, mais d'abord je voudrais rappeler à un des intervenants qui disait que j'ai eu une bourse de l'État malien pour aller en France, que cela n'est pas vrai. Je n'ai jamais bénéficié d'une bourse d'études pour aller en France. J'étais parti en France en tant que touriste et j'ai pu avoir des gens qui m'ont aidé et j'ai travaillé pour payer mes études en France. Donc c'est une parenthèse bien sûr. Juste un mot là-dessus.
Oui. Vous étiez quand même, vous faisiez partie d'un programme de l'État malien.
Pas du tout.
Vous avez bénéficié de certains avantages de l'État malien.
Pas du tout.
D'accord.
Absolument.
Allez-y.
Pas. J'ai bénéficié, comme tout le monde, des études primaires et secondaires.
Ici
et
au Mali.
Là, j'en suis reconnaissant. J'en suis reconnaissant. Sinon, je ne serais pas là où je suis par rapport au territoire sur lequel j'ai grandi. Moi aussi, j'ai rendu service au Mali. Il faut demander à tous ceux avec lesquels j'ai grandi. On ne va pas m'empêcher aujourd'hui d'avoir des positions politiques. J'ai le droit d'avoir des positions politiques.
Allez-y pour la question.
J'aimerais bien fermer cette parenthèse parce que ce n'est pas de ma personne qu'il s'agit.
Allez-y.
Il s'agit bien sûr de l'intérêt général et d'une négociation aujourd'hui à Alger qui est en train de chercher des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut que des hommes et des femmes réfléchissent avec le soutien et l'accompagnement d'experts de tous bords.
Je voulais juste que vous réagissiez par rapport à ma question.
Par rapport à votre question, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, notamment en Europe, c'est-à-dire en Écosse qui va... en Écosse et en Catalogne, est très important parce que par la démocratie, ces peuples vont s'exprimer. Et nous espérons que leur expression, leur volonté va être respectée par la communauté internationale. Et je n'en doute pas. Mais ces pays-là sont des pays démocratiques. Démocratiques, notamment la Grande-Bretagne et l'Écosse. Ce qui n'est pas le cas vraiment au Mali. Donc tous ceux qui sont sur cette table le savent. Sinon, on n'en serait pas arrivé là où nous sommes. Et par rapport à la constitution dont on parle, j'ai dit bien que la constitution n'est pas le Coran. C'est le fait des hommes qui peuvent modifier dans l'intérêt général de tous. Et pour cela, nous ici, nous sommes en train de voir comment nous pouvons construire une paix durable qui soit bénéfique pour tout le monde.
Alors, on voudrait juste comprendre.
Mon frère Tamashek,
si vous répondez à tout le monde, Moussa, on ne finira pas. Moi, je voudrais juste faciliter un peu la compréhension des auditeurs. Est-ce que si les pourparlers sont partis pour au moins un mois, est-ce que si vous demandez le fédéralisme aujourd'hui, cela n'équivaut pas à étendre les négociations sur plusieurs mois, voire toute une année ? Puisqu'il s'agira de demander l'avis du peuple.
Non, vous savez, déjà, une partie du peuple était là. La société civile était venue. Nous l'avons écoutée. Et nous venons de recevoir d'ailleurs la synthèse de ce qu'avait dit la communauté, la société civile. Donc, le reste, ça va se faire parce que nous, on va rentrer bientôt, à la fin de ce mois. Nous allons rentrer chacun chez soi et discuter avec les siens, avec toutes les différentes parties qui sont représentées aujourd'hui. Et je voudrais juste une seconde dire que personne ne peut dire qu'il représente 100% de la population. Mais personne ne peut dire qu'il ne représente même pas 1%. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est dépassé. Aujourd'hui, nous nous battons pour des valeurs, pour des aspirations, au moins qu'on respecte chacun dans sa volonté. Et les mouvements politico-militaires de l'Azawad aujourd'hui représentent bien une certaine population.
Nous allons observer, nous allons si observer quelques secondes de pause. Malheureusement, les impératifs de temps nous obligent à observer cette pause-là. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous allons continuer avec la troisième et dernière partie du débat.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous nous suivez à travers le monde grâce à notre site web www.studiotamani.org en un seul mot. Et le réflexe est également de jeter un œil sur notre page Facebook pour approfondir le débat. Nous parlons ce soir dans le Grand Dialogue de la question suivante. Le Mali sera-t-il un État fédéral après ce qui se passe en Algérie? Dans cette troisième partie, nous tenterons de répondre à cette question. L'unité nationale est-elle encore possible avec ce qui se passe dans les pourparlers à Alger? Pour l'occasion, nous avons comme invité Amadou Goïta du Parti Socialiste, parti de l'opposition, Amadou Aya, du Parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Agha Assari du MNLA, voilà, Assibi Agha Akado du Conseil national de la communauté. Bella, l'unité nationale est-elle encore possible après ce qui se passe à Alger lors des pourparlers intermaliens Moussa Agha Assari?
Écoutez, avant l'unité nationale, il y avait le Mali, la fédération du Mali.
Et la fédération du Mali qui était avec le Sénégal. Le Mali, l'actuel Mali avec le Sénégal.
Pourquoi les deux ont choisi que chacun construise son destin en tant que bon voisin et frère avec l'autre?
Là, c'était deux États, Moussa.
Mais écoutez, ces deux États, on peut partir de deux États, on peut aussi partir d'un seul État pour faire deux États fédérés. Ça existe. Si c'est la solution pour la paix, pourquoi pas?
Mais Moussa, à l'état actuel des choses, quelles sont les garanties sécuritaires que vous avez à proposer pour au moins parvenir au fédéralisme?
Nous avons l'accompagnement de la communauté internationale.
Oui, mais cela n'est pas suffisant, Moussa.
Non, nous avons une maturité de ces dernières années. La rébellion a pris de la maturité. Aujourd'hui, nous respectons les engagements pris devant le monde avec la partie du gouvernement du Mali. Il y a ces garanties sécuritaires-là avec l'accompagnement de la communauté internationale et avec un accord qui va, comme je vous l'ai dit, respecter un certain nombre d'engagements. Et ces engagements-là, respectés bien sûr, vont pouvoir sécuriser le territoire. Et si c'est le prix à payer pour la paix, pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, nous ne parlons pas de remettre en cause l'intégrité territoriale. Mais tout le reste est négociable.
Comme l'a dit le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, Moussa, merci beaucoup, mais restez avec nous. Nous allons permettre aux trois autres débatteurs de donner leur avis sur cette question. L'unité nationale est-elle encore possible, Amadou Keïta?
Ah, bien sûr. L'unité nationale, nous allons la défendre au prix du sang. Je pense que Moussa, les propos que Moussa avance se retrouvent dans la régionalisation proposée par le gouvernement. Vous savez, la régionalisation est une doctrine politique ou un système administratif et social qui valorise et tend à défendre la particularité et les identités de chaque région et les octroie également une large autonomie sur le plan économique et politique. Dans ce cas, les régions deviennent l'intermédiaire entre les communes locales et l'État central. Je pense que ça, c'est une avancée majeure. Maintenant, à partir du moment où ils se sont reconnus eux-mêmes dans des accords, je parle tout récemment de la feuille de route. Je me demande aujourd'hui au nom de quelle population. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui, très sincèrement. Hein. Les armes ont parlé, elles ont montré les limites. La diplomatie est en train de montrer sa limite à travers les négociations de Ouaga où les Moussa Assari sont en train de prendre ces négociations en otage. Pourquoi ne pas donner la parole au peuple? Le référendum est également une expression. Comme je l'ai dit, dans la constitution malienne, la souveraineté n'appartient qu'au peuple malien. C'est vrai aujourd'hui, même s'il y a un référendum, la Constitution interdit également qu'un référendum porte sur la division du pays, selon la scission du pays. Mais de combien d'accords? Parce que les populations au nom desquelles ces groupes armés parlent, ces groupes armés veulent imposer. Ils veulent imposer aujourd'hui la situation du Mali. Ils veulent imposer le fédéralisme. Or, ce genre de concept, comme l'a dit le grand frère, doit être adhéré. Mais non, une imposition. L'autorité politique ne doit jamais être imposée. Elle doit surtout être adhérée. Si on interrogeait les populations du Nord, je suis persuadé que même à Kidal, ces populations voteront à 95% pour leur maintien dans un Mali indivisible.
D'accord. Alors, Amadou Aya, est-ce que l'acceptation du fédéralisme ou de la régionalisation ne risque pas de faire appel à d'autres revendications?
Non. La régionalisation est un processus qui est déjà en marche depuis des années. Parce que nous avons, dans l'ère du Mali démocratique, a opté sur la décentralisation. Et à la pratique, il est temps aujourd'hui qu'on s'arrête pour évaluer, n'est-ce pas, les avancées de cette décentralisation, d'où la proposition du gouvernement d'aller vers une décentralisation forcée et se renforcer afin de répondre aux préoccupations des uns et des autres. Il ne s'agit pas seulement des régions du Nord, mais il s'agit de toutes les régions du Mali qui ont besoin aujourd'hui de se reconnaître ou de se retrouver vers une décentralisation forcée afin de prendre en main leur destin. Moi, je pense que si nous avons en mémoire notre hymne national, je pense qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler de scission de ce pays. Comme l'a dit M. Goïta, cette intégrité de notre territoire, nous allons la défendre, n'est-ce pas, au prix de notre vie. C'est ça l'hymne national du Mali, à son appel.
Ok. Alors, l'unité nationale est-elle encore possible, Assibi Agadou?
Évidemment qu'elle est possible. Certes, elle est mise à mal par des individus, je dirais, derrière lesquels des agendas extérieurs sont en train de s'exprimer quand ils nous parlent de leurs experts qui font fi de toutes les résolutions des Nations Unies pour les conseiller dans le sens d'un fédéralisme. Je dis quelque part que le MNLA et ses compagnons ne portent pas les préoccupations des populations maliennes. Ils portent les préoccupations de personnes extérieures. Alors l'unité, elle est possible. Elle est possible. Et rien ne peut ébranler la cohésion millénaire, n'est-ce pas, qui a cimenté les relations entre les majorités de ce pays-là. Il faut que Moussa Gassarid s'assure que, comme il l'a dit d'ailleurs, qu'il parle au nom d'une minorité. Et les minorités ne peuvent pas imposer la division à ce pays-là. Il faut qu'il se rassure. Ce n'est pas possible.
Alors, Moussa Gassarid, l'ambassade de l'Azawad, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est des bruits de couloir ou bien une réalité aux Pays-Bas?
C'est une réalité, une représentation politico-culturelle de l'Azawad en Hollande.
À quoi cela équivaut?
Ça équivaut aux activités que mène une ambassade du Nouveau Monde. Ça s'appelle « The New World Embassy of Azawad ». On ne fait pas ce qu'un consul a fait, mais nous faisons ce qu'une ambassade fait, comme étant non reconnu par les Nations Unies. Mais aujourd'hui, nous avons une existence à l'étranger, notamment en Hollande, et on ne va pas nous arrêter là. Nous allons continuer tout ce qui sera bien pour les populations de l'Azawad. Nous allons le faire. Et quand il parle de minorité, mon frère qui vient de parle de minorité, nous ne sommes pas minoritaires chez nous, parce que nous voulons vivre avec tout le monde. Nous ne sommes pas en guerre contre les communautés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, une solution qui pourrait arranger tout le monde, c'est de permettre à tous ceux qui habitent dans ces régions de Gao, Tombouctou, Kidal et le cercle des Douaza de s'exprimer lors d'un référendum d'autodétermination.
Moussa, juste permettez-nous de comprendre aussi cette délimitation dont vous parlez. Vous parlez du territoire de l'Azawad avec la région de Tombouctou, de Gao, du cercle de Douanza, où l'armée malienne et les autorités maliennes sont encore présentes. Est-ce que cela ne donne pas une vision un peu erronée de cette idée de fédéralisme?
Non, les situations sont évolutives, mais les peuples de mer, les situations sécuritaires dont vous parlez, l'armée est à Douanza, mais il y a quelques jours seulement, quelques semaines, elle était à Menaka, elle n'y est plus. Et nous sommes à 35 km de Gao, 60 km de Tombouctou. Il ne s'agit pas de ces positions-là. Là où nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement à Alger. Et nous ne prenons personne en otage. Nous ne prenons aucune situation en otage. Nous sommes en belligérance parce que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Et je vous dis, c'est pour le bien-être de tous qu'il faut que nous arrivions à trouver une solution politique, une solution négociée qui soit équitable, juste et durable.
Alors aujourd'hui,
c'est ça le souci qui nous anime.
Aujourd'hui encore, le MNLA a claqué la porte des négociations. La cause provient de la légitimité dont vous parliez par rapport aux acteurs, à certains acteurs qui prennent part à ces pourparlers inclusifs aujourd'hui. Est-ce que cet état de fait ne remet pas encore en cause les pourparlers et retarde davantage la souffrance des populations?
Non, pas du tout. Le MNLA n'a pas claqué la porte aux négociations. Non, nous avons émis un souhait de nous laisser un peu de temps pour retrouver les autres frères qui n'ont pas encore rejoint la coordination des mouvements de la ZOAD et qui vont parler en tant que coordination face à la partie malienne. Nous n'avons pas claqué la porte à la négociation, mais nous avons quitté la porte en souhaitant et en les disant avec la bonne manière, en disant que nous avons besoin du temps. Moi, je suis membre de la commission politico-institutionnelle qui s'était réunie ce matin et je peux vous dire que nous avons parlé, nous avons laissé s'exprimer tout le monde et pour rentrer dans le fond, on a besoin de ce qu'on appelle, dans le cadre des résolutions de conflits comme la nôtre, la belligérance. Qui s'est fait la guerre? Qui a des revendications qui rentrent dans ce cadre-là? Et ce sont ceux-ci qui doivent faire la paix. Et ensuite, les autres, bien sûr, contribuent. Ils peuvent contribuer à tous les niveaux.
Alors Moussa, les impératifs de temps m'obligent malheureusement, je m'excuse, à arrêter un moment avec vous et de redistribuer la parole pour un dernier mot. Mais juste avant de vous quitter, dites-nous si aujourd'hui, en tout cas, ce que nous avons constaté sur le terrain à Alger, ça donne espoir. Est-ce que d'ici la fin de ce mois, la paix redeviendra une réalité au Mali?
Oui, je suis optimiste, mais malheureusement, ce ne serait pas à la fin du mois qu'il y aura un accord. Il y aura une suspension à la fin du mois. Et moi, je suis optimiste parce que je crois en l'intelligence et en la volonté des hommes pour trouver une solution entre eux d'un vivre en paix.
Merci beaucoup, donc, Moussa, depuis Alger, représentant du MNLA depuis Alger. Merci infiniment, Moussa. Alors, Amadou Koïta, un dernier mot sur l'issue des pourparlers à Alger.
Notre souhait est que ces pourparlers aboutissent, puisque le peuple malien aspire à la paix. Nous aspirons à la paix. Le peuple malien se battra pour le retour de la paix, la sécurité. Que Moussa, que ces groupes armés comprennent qu'on ne peut pas accepter les négociations inclusif et vouloir exclure d'autres. Ils ne se battent pas contre le gouvernement, c'est l'ensemble du peuple malien uni comme un seul homme qui se donnera la main pour l'unité du Mali, pour l'intégrité territoriale du Mali, pour la souveraineté du Mali, même s'il le faut plus puissant.
Merci beaucoup Amadou Goïta du Parti Socialiste. Alors Amadou Aya du Parti Yelema.
Mais je crois que comme Moussa Aksarid l'a dit, il faut que nous sommes des hommes qui sont intelligents, comme il l'a dit, qui croyons à ce pays, à l'avenir de notre peuple, à l'avenir également de nos enfants. Il est important qu'ils s'inscrivent dans la dynamique de la régénération.
Votre espoir?
Mais L'espoir, c'est que c'est un pays de paix. Nous allons y arriver.
D'accord. Alors, Assibi.
La force doit revenir au droit. Nous sommes confiants que le droit finira par triompher.
D'accord.
On ne peut pas obtenir ce qu'on veut par la force des armes, par la force, n'est-ce pas, de la propagande. Les communautés ne suivront pas. Les communautés ne s'inscriront jamais dans ce projet-là. Et nous souhaiterions qu'on arrête de faire des montages des sociétés civiles, des groupes armés, et oublier que la majorité des autres populations ne sont pas représentées.
Merci
en
beaucoup.
L'occurrence, la communauté Bella, elle n'est pas là-bas.
Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir bien voulu participer à cette émission. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Petting Diarra était à la mise en onde et le débat portait sur le fédéralisme. Pouvait-il être une réalité au Mali? Nous en avons largement débattu. Merci aux invités. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halou de Maoundi.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.